Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Iwatala, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire d'information et de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Marc Landry et j'anime ce podcast avec mon partenaire de tout le temps, comme vous le savez, Franck Fallet. Comment tu vas, Franck?
Je vais très bien, Landry. Bonjour à toi et à tous nos auditeurs.
Super. Alors, Franck, dis-nous, qu'est-ce que ton miroir magique nous réserve aujourd'hui?
Alors, le miroir nous réserve une très belle surprise. Déjà, je vous rappelle que depuis le lancement du podcast Ivoire Talent, nous nous sommes engagés à vous faire découvrir des sujets brûlants qui concernent tous vos domaines d'activité. Et l'épisode de ce jour s'inscrit parfaitement dans cette lancée. Le thème de notre podcast concerne aussi bien les étudiants que les professionnels. Pour vous permettre de le découvrir, je partage avec vous cette histoire. Il s'agit de l'histoire de notre invité du jour. Titulaire d'un BTS en télécom obtenu en Côte d'Ivoire, il poursuit ses études jusqu'au cycle ingénieur en système numérique de communication. Son diplôme d'ingénieur en poche, il décide de mettre une petite pause à sa carrière professionnelle pour renforcer son anglais. C'est ainsi qu'il ira faire un stage d'apprentissage au Ghana pour maîtriser la langue de Shakespeare. Était-ce un coup tactique ou une prophétie? On ne le sait pas encore. À son retour du Ghana, il cherche à nouveau du boulot. C'est ainsi qu'il réussira au concours de la fonction publique et il intégrera le ministère de l'Agriculture. Cet originaire de Dabou, qui a plus d'un tour dans son sac, postule en parallèle à des bourses étrangères, notamment la bourse du Japon appelée MEXT, à laquelle il est admis. C'est ainsi qu'il se retrouve depuis le 2 avril 2013 au Japon. Après 6 mois d'apprentissage de la langue japonaise, il poursuivra ses études au Japon jusqu'à obtenir un doctorat en sciences de l'information. Aujourd'hui, il occupe le poste de responsable des projets d'innovation au sein de Schneider Electric au Japon. Notre invité du jour se nomme Elder Agba. Pour les intimes, Elder au Japon, comme il se fait appeler sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et sur YouTube. Avec lui, nous parlerons du thème étudier à l'étranger. Bonjour Elder, bienvenue sur le podcast Ivoire Talent.
Bonjour Franck, bonjour Landry, minasan konnichiwa, ogenki desu ka. Donc
Bonjour.
merci vraiment pour l'opportunité que
Voilà.
vous nous donnez, que vous me donnez aujourd'hui. Bon, c'est Elder Akpa, comme il a dit, Elder au Japon sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment un plaisir. Bonjour à tous les auditeurs, à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu as fait depuis là? J'ai pas bien compris. C'est un japonais?
Yeah, c'est un
Ça veut dire
japonais.
quoi?
Konbanwa, konnichiwa, bonjour, bonsoir.
Oh, ok. Konbanwa, konnichiwa. Super. Ok. En tout cas, ton parcours a coupé le souffle, franchement, et Franck a fait une superbe introduction. Donc, mais moi, je veux rapidement rentrer dans le vif du sujet en te posant la question de pourquoi tu as pris la décision d'aller continuer les études à l'extérieur du pays. Tu avais déjà pu avoir un parcours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi pour pouvoir partir, continuer les études à l'extérieur?
Ok, merci beaucoup, très belle question Landry. En fait, j'ai deux éléments déclencheurs à la base. Il faut dire que depuis le baccalauréat, c'est le rêve de nous tous hein, de pouvoir partir étudier à l'étranger. Mon grand rêve, c'était quel que soit le choix, quel que soit le dernier diplôme que j'allais faire, il fallait que ce dernier diplôme soit un diplôme d'extérieur. Donc déjà, depuis mon baccalauréat, je me dis que avec les moyens des parents, c'est pas bien grave de faire une licence en Côte d'Ivoire, de faire un master, de faire un diplôme d'ingénieur, mais le dernier diplôme sur mon CV, depuis tout petit, il faut que ce soit un diplôme international. Ça, c'est la première chose qui était dans ma tête. Et ce qui m'a vraiment choqué, mais motivé vraiment à démarrer de façon vraiment active, c'est l'histoire que je m'apprête à vous raconter et qui m'a vraiment choqué. En fait, quand j'ai eu mon baccalauréat, on va dire un an après moi, j'ai une cousine qui a eu aussi son baccalauréat. Et moi, j'ai fait mon BTS en Côte d'Ivoire. Les parents avaient un peu de moyens. Elle est partie faire la même chose que j'étudiais en télécommunication. Elle a fait au Ghana, à Accra. Donc pendant la première année, quand elle vient en vacances, moi, je suis son grand frère dans la même filière. Et elle arrive en Côte d'Ivoire. C'est moi-même qui lui donne un peu les tuyaux dans le domaine des télécoms, ce qu'il faut faire, des PABX, les thèmes techniques qu'on a déjà fait en deuxième année, elle en première année. Du coup, c'est moi qui suis son grand frère qui l'enseigne. Donc, elle va au Ghana, elle revient avec une licence en télécom. Bon, si vous voulez un BTS, c'est un peu pratique. Plus son anglais. Et ce qui m'a choqué, c'est ça, qu'elle revient, je suis fort qu'elle, mais il y a une compagnie de télécom qui s'est ouverte en Côte d'Ivoire qu'on appelait Comium, le groupe Croz. On postule ensemble, la cousine qui est la plus cadette, qui a fait juste le Ghana, elle obtient le métier à Comium à cause de son anglais, à cause de son diplôme au Ghana. Alors que moi, je connais mon travail. C'est moi qui la coach, c'est moi qui l'entraîne à la maison. Moi, je suis là,
Wow.
je dépose mon dossier à Comium. On ne m'accepte pas, on ne me répond pas, on ne me fait rien. Ça m'a choqué. Ce n'est pas vrai. Donc, cette histoire
Wow.
d'aller à l'étranger, ça compte vraiment alors. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que les gars, ok, c'est bon, là, je suis inscrit en première année d'ingénieur, mais il faut que je sorte de ce truc-là. Il faut que je quitte ici parce que même si je finis, ce n'est pas évident qu'on respecte mon diplôme d'ingénieur. C'est vraiment comme ça que ça a commencé à m'embêter depuis ma première année d'ingénieur.
Wow. En tout
C'est le
cas, votre
choc.
mon déclencheur, c'est un véritable choc, un big bang même, on peut dire. Ah, donc depuis le baccalauréat, tu avais déjà cette intuition, mais ce choc-là est venu vraiment te conforter dans cette intuition que tu avais depuis le baccalauréat. Mais dès lors que
Exactement.
tu as eu ce choc, quelles sont les étapes que tu as mises en place ou bien quelles sont les étapes que tu as traversées une fois que tu es totalement convaincu de cette décision d'aller étudier à l'étranger?
Voilà. Ça, c'est une bonne question aussi. J'ai pris des informations un peu ici et là, un peu comme tout le monde, un peu quant à personne, tu vois. Moi, je suis Elder. Elder, c'est un nom, c'est anglais, c'est l'aîné en fait en français. Il n'y a personne devant moi, je suis l'aîné de la famille. Et il n'y a personne qui est derrière l'eau, comme on dit chez nous. Il n'y a personne pour m'aider. Donc, je me renseigne sur le tas avec les cybercafés qu'on a. Et avec ce qu'on a étudié à l'école, tu sens que vraiment, quand, dans le domaine des IT que je fais, tout se passe en anglais. Donc, quand tu commences à chercher les informations, la première page, c'est en français. Quand tu pousses un peu, c'est en anglais. Donc, je me suis dit qu'il faut forcément comprendre cet anglais-là pour que je puisse même pouvoir lire les informations sur la bourse. Donc, ma première étape, pour moi, c'était vraiment d'améliorer mon anglais. Et dans notre système académique, c'est pas qu'on est nul en anglais, on apprend depuis la sixième, parfois, mais on n'a pas la possibilité de pratiquer. Et toutes ces personnes qui sont allées étudier, même si c'est au Maroc, qui sont allées en Tunisie, parce que c'était à la mode hein, dans le temps d'aller au Maroc, en Tunisie, pour étudier, ils ont un petit background en anglais que nous, on n'a pas vraiment cette possibilité-là. Donc, pour moi, la première étape, c'était vraiment de perfectionner mon anglais. Et comment le faire? Mon papa, il est infirmier à la base, et infirmier d'État qui a arrêté de travailler, il voulait faire son truc à son propre compte, sa clinique. Du coup, on n'est pas trop riche, on n'est pas pauvre, ben il ne peut pas t'envoyer étudier, tu vois. Voilà. Donc, c'était vraiment la recherche d'informations et puis l'anglais qui était un masque. Il fallait que j'aie ce truc-là.
Ce qui est bien dit, quand tu parles d'anglais, parce que moi aussi je suis parti étudier à l'extérieur, je vis aux États-Unis, et c'était l'élément déclencheur pour moi, parce que lorsque nous étions à l'INPHB, nous étions en train de faire le diplôme d'ingénieur, cycle ingénieur télécom. Bon, il y a certains de nos promotionnaires qui cherchaient à aller en France, à aller à HEC. Mais franchement, moi, la France ne m'a jamais intéressé parce que je me suis dit, je parle déjà français. Il faut que si je dois faire un autre diplôme, il faudrait que ça m'apporte quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il faudrait que ça, je puisse m'exprimer de façon fluente, comme on le dit, en anglais. Donc, je suis dans la même veine que toi, hein, parce que je me dis qu'actuellement, où le monde part, tu peux pas t'en sortir si tu ne parles pas anglais. En tout cas, professionnellement,
Exactement.
pour nos auditeurs, c'est-à-dire
Exactement.
ceux qui sont encore à l'école, c'est le conseil que je peux vous donner. Si
C'est
tu es en
clair.
série C, faut pas négliger l'anglais. L'anglais, c'est la clé de toute ascension professionnelle actuellement. Et ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Mais moi, je veux revenir encore pour savoir pourquoi le choix du Japon. Parce que bon, il y avait d'autres pays, il y avait, tu vois, l'Angleterre, il y a peut-être l'Écosse, il y a les États-Unis, il y a le Canada. Mais pourquoi spécifiquement le Japon? Et aussi dans la même veine, pour d'autres personnes, quand ils veulent partir étudier, ils se disent, OK, bon, après l'étude, je ne vais pas rentrer directement au pays, je veux travailler là-bas. Est-ce que ça a été un facteur important pour toi dans la prise de décision? Parce que je sais qu'il y a certains pays qui ne donnent pas la possibilité aux étudiants étrangers de travailler sur leur territoire. Tu viens, tu fais ta formation, tu prends ton diplôme, tu retournes dans ton pays. Donc, voilà.
Je vois, je vois. D'abord, ça, c'est une question à deux volets. Donc, pourquoi le Japon? Je pense que c'est la première question. Voilà, c'est un peu comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Moi, l'histoire qu'on a avec la France et les pays d'Europe, on parle déjà français. Donc, à tout moment, pour un Ivoirien lambda qui se débrouille un peu, même s'il est, on va dire, enseignant à l'université ou bien d'un lycée, il a le moyen de partir en France, tu vois. Donc, pour moi, c'est un must. Nous tous, on pourra partir un jour en France. Donc, quand je suis jeune, quand j'ai encore le chakra, j'ai encore la force de sortir, d'aller apprendre. Moi, j'ai pas envie de partir d'un pays où je sais que je peux aller mourir et puis on va m'enterrer dans mon village. Parce que la France est devenue un village pour nous. On peut aller en France du jour au lendemain. Tu peux faire un aller-retour à Abidjan-Paris la même journée. Tranquille. Donc, moi, vraiment dans ma tête, j'allais partir étudier partout sauf déjà en France. Et puis après, les pays d'Europe qui m'intéressent, c'est vraiment l'Angleterre, les pays où on ne parle pas déjà français pour pouvoir avoir ce challenge de la langue. Après, au lycée,
Parfait.
j'étais super bon en allemand. Donc, je me voyais déjà un peu en Allemagne, en train de boire les bières là-bas et tout. Donc, non, c'était vraiment, voilà, même si je partais en Europe, ça devait être un pays, on va dire, hors de la France, où on ne parle pas français, pas Belgique, pas Suisse, des trucs comme ça. Donc, j'avais le choix entre l'Asie, je voyais le Japon, la Corée du Sud, ou bien les États-Unis. Et bon, après les États-Unis, tu vois, les États où on tire les pistolets un peu sur les gens un peu noirs, on a des mauvaises images. Donc, voilà, on a un peu peur, on a un peu peur. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Donc, moi, on était déjà très logiqué. Ok, je vais en Asie. Donc, j'ai postulé pour deux bourses, en fait. J'ai postulé pour la bourse du Japon et la bourse de Corée du Sud. Et le Japon a commencé tôt. La Corée du Sud, je suis passé au deuxième tour, mais j'ai eu la bourse du Japon avant et je suis venu au Japon. Donc, moi, j'étais déjà dans ma logique. Ok, je suis jeune, j'ai la force, j'ai l'envie de me promener. Donc, je commence en Asie. Même quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je peux aller m'installer en Europe, faire le tour de l'Europe avec ma voiture. Alors qu'en Asie, c'est carrément différent. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé déjà. Pourquoi le Japon? C'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, le deuxième volet de la question, quand je venais au Japon, je savais pas que, je pensais même pas que j'allais rester longtemps comme ça pour travailler et tout. Déjà, c'était pour moi, j'ai obtenu une bourse de 2 ans. Quand tu appliques pour la bourse, on te dit ça couvre ton master 2 ans, alors que quand tu viens, c'est 3 ans en fait. Parce qu'il y a les 6 mois de langue japonaise qui ne sont pas comptés, qu'on ne te dit pas. Et puis, on appelle le research student. Tu as 6 mois de research avant d'intégrer un laboratoire. Du coup, ça fait 1 an en faisant 6 plus 6, et puis après 2 ans. Donc, c'est 3, on est parti pour 3 ans. Après, tu es arrivé au Japon, tu maîtrises un peu, tu parles la langue, tu comprends le système. Et puis, un truc que j'adore, c'est qu'on me paye pour étudier. Et je dis ça aux gens tout le temps. On me paye pour étudier. Je vais à l'école, on me paye. Je fais une publication scientifique, on me paye. On arrive après le master ici, on pouvait rentrer au pays, on avait aussi la possibilité de continuer en doctorat, en PhD. En fonction des publications, des travaux qu'on a faits, il y a eu cette possibilité dans les résultats. Et certains de mes amis ont arrêté, mais moi, j'ai pensé comme ça, j'ai réfléchi comme ça, on me paye pour partir à l'école. Je me rappelle quand j'étais à Dabou, à Jacquesville, au lycée, à l'université, on me forçait. On me frappait pour partir à l'école. Tu vois, maintenant on me paye. On me dit, petit, tiens, chaque fin du mois, on me donnait environ, on va dire en convertissant, 145 000 yens, ça fait 700 000 francs CFA par mois qu'on me paye parce que je vais à l'école. Donc pendant 3 ans, on me paye pour partir à l'école. Je gagne quoi à ne pas partir? Du coup, moi, j'ai kiffé vraiment la vie d'étudiant docteur avec mes publications, les conférences. Ça m'a fait voyager tellement que. Même si je travaillais, aucune entreprise allait vouloir me payer ce nombre de billets d'avion. En plus, j'ai la langue, je parle français, anglais, japonais. Du coup, même quand on va
Triplette.
dire, un gars du laboratoire, par exemple, fait une recherche, un article scientifique, quand il fallait l'accompagner, un peu, me dit, bon, Elder, on va à Miami, le petit qui a fait le truc, il parle pas bien anglais, tu peux nous accompagner, juste pour que je puisse expliquer, je puisse défendre. Tu vois, le petit japonais, il a fait sa chose, ça marche bien, mais il n'a pas le vocabulaire. Il peut expliquer l'exposé en PowerPoint, mais après, quand il y a les questions du
Il
public
s'en
qui
sort
arrivent,
pas.
ça sort pas. Donc, on me paye le billet pour que je parte accompagner le mec. Donc, tous ces avantages-là, vraiment, moi, je sais pas pourquoi il allait arrêter. Là, j'ai fini, je travaille, mais j'ai fait avec Elder au Japon, je fais des recherches de bourses d'études que je partage, j'ai des informations. J'ai même envie d'arrêter de travailler pour faire un postdoc. On me paye pour partir à l'école, on me paye pour étudier ce que j'aime. Et puis, c'est sans stress en fait. Quand tu fais un doctorat, tu fais de la recherche, tu n'es pas obligé de trouver quelque chose en fait. On te paye, tu n'es pas obligé d'avoir, il n'y a pas obligation de résultat. Alors que tu travailles pour une compagnie, on a les clients, il y a des services, il y a des produits que tu dois faire, obligation de résultat, et on te paye. En plus, au Japon, quand tu es étudiant, on te coupe pas les impôts. Donc, c'est trop d'avantages pour moi. Pourquoi je continue pas, quoi? Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'on me frappait, souvent, il n'y avait même pas le petit déj, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai continué un doctorat, motivé par la chose. Et puis, un gros avantage que les gens ne savent pas aussi au Japon, c'est que peut-être aux États-Unis, ça se passe comme ça. On cherche le travail en dernière année. C'est-à-dire que quand tu es en Master 2, quand tu peux avoir un Master, c'est les premiers, en Master 1, en fin d'année de Master 1, que vous faites ce qu'on appelle le job hunting. Donc, quand tu finis ton diplôme de Master 2, quand tu as ton diplôme, au Japon, tu as 2 semaines de chômage. Parce que, avant d'avoir fini l'école, même tu sais déjà dans quelle compagnie tu vas bosser. Donc, moi, j'ai fini mon doctorat, j'ai eu mon diplôme le 13, le 15 mars, le 1er avril, j'ai fait 2 semaines de chômage, si vous voulez. J'ai dit ça comme ça, c'est juste pour nous permet de déménager pour rejoindre là où l'entreprise est, la nouvelle maison et tout et tout. Donc, on ne chôme pas au Japon. Donc, bon, j'étais tranquille dans ma tête avec mon l'historique, mon CV. Schneider Electric, ils m'ont pris pendant que j'étais encore étudiant. Ils m'ont dit, Elder, on a du boulot pour toi. Je leur ai dit, moi, je suis pas disponible pour travailler maintenant. Je veux finir mon doctorat. Ils m'ont dit, bon, d'accord, on va te prendre on appelle ça internship, I don't know, je sais pas, part-time job. Donc, on m'a pris un part-time job. Je faisais 3 jours à l'école. Je faisais 2 jours chez Schneider. Et là, j'étais dans l'équipe du protocole, le réseau. Je faisais encore du coding. Je programmais. Mais dès que j'ai eu mon doctorat, j'ai pris ma fonction première de manager à l'innovation. Donc, c'est ça qui a fait que je suis resté au Japon et ça me permet de, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses, de voyager et le voyage, ça continue. J'aime voyager en fait. Et ça continue plein, plein, plein avec Schneider. Donc, c'est un peu la réponse à cette question.
Le temps passe super vite. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais aussi fait la formation avec d'autres personnes, c'est des Ivoiriens également.
J'ai quelques Ivoiriens, j'ai beaucoup de potes internationaux. Les Ivoiriens qui sont arrivés avec moi, bon, quand je suis arrivé seul, mais après, avec mon coaching sur Elder au Japon, j'ai pu coacher 2 de mes cadets. Depuis Abidjan, on était dans la même école. Je suis arrivé en 2013, ils m'ont contacté directement. Je les ai coachés, ils sont arrivés en 2014. Donc, ces deux-là, ils ont continué. C'est un qui vient à peine de quitter la maison. Il fait son doctorat. Il va avoir son diplôme la semaine prochaine. Et voilà, c'est lui qui est venu me saluer parce qu'il quitte, il va dans une autre ville du Japon. Donc, avec son épouse, il est venu me saluer aujourd'hui.
C'était
Donc,
justement ça ma question. Ma question, c'était justement de te demander, en ce moment où toi tu faisais les étapes pour obtenir la bourse, est-ce que tu avais été accompagné en ton temps?
Non, pas du tout. Il n'y avait pas vraiment d'accompagnement. J'ai pu avoir la grâce d'avoir une aide, mais c'était vraiment au niveau de ce qu'on appelle le plan de research proposal. Pendant l'écriture de ce research proposal, mon research plan, mon parrain dans le temps qui travaille à l'hôpital des impôts m'a mis en contact avec un de ses anciens amis qui était venu au Japon quand il était étudiant en médecine. Donc, il y a eu environ, je pense, un écart de 10 ans entre nous. Et c'est ce monsieur-là qui m'a permis de pouvoir, à ce niveau, au niveau de l'écriture, du plan de recherche, qui m'a donné quelques indications. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas vraiment, il n'y a personne pour m'accompagner. C'est pourquoi j'ai mis, en fait, Elder au Japon. On est débordé par les informations. On ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas comment rédiger les trucs.
C'est
Et
clair.
moi, il n'y avait personne. Donc,
Ok.
c'est vraiment la motivation qui a fait que j'ai créé Elder au Japon et que je donne les conseils tous les jours aux gens par rapport aux bourses. Ça fait mal, mais quand tu es le Elder, tu vois qu'il n'y a personne devant toi, mais voilà,
Yeah,
sur
tu
Ghana.
dois penser au cadet.
Voilà, tu dois le faire d'abord. Quand tu veux penser à toi, il n'y a personne, tu dois aller tout lire, tout comprendre. Et moi, ce que m'a, on va dire, ce qui m'a peut-être aidé un peu, c'est vraiment encore cet anglais que j'ai pu apprendre. Parce que si on va dans l'histoire, je suis quitté en Côte d'Ivoire en 2010 pour aller apprendre l'anglais au Ghana pour 3 mois. J'étais censé faire 3 mois et heureusement, mais malheureusement, il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Du coup, je ne pouvais plus rentrer au pays après mes 3 mois de cours. Donc, je suis resté au Ghana comme un petit Ghanéen et j'étais devenu un peu comme le démarcheur entre les Ivoiriens qui fuyaient la crise et puis qui voulaient s'installer au Ghana. Et à force de côtoyer les vieux Ghanéens, je commençais à m'insérer. C'est vraiment ça qui a boosté mon anglais. Sinon, l'anglais à l'école de 3 mois, c'est bien, mais c'est la base.
Exactement, j'allais te dire la même chose parce que même aux États-Unis, si quand tu arrives, on te jette un programme d'anglais intensif, comme les gens disent. Voilà, peut-être ça peut faire 6 mois, il y a d'autres qui vont faire 1 an, mais franchement, ça ne te donne rien, quoi. Parce que quand tu vas sortir de là, parce que le professeur, lui, il te parle en anglais, l'anglais académique. Mais quand tu
Voilà, c'est
sors, tu es dans
mieux.
la rue, un anglais américain, quand il va te parler, tu vas rien comprendre. Et
Exactement.
c'est ce qui se passe en fait. Donc, souvent, les cours, les gens sont dans certains leurres, ils se disent, ah, oh, ok, je vais partir faire 6 mois d'anglais intensif, 1 an d'anglais intensif,
Ça
mon anglais sera
suffit
propre.
pas.
Ça
Ça
suffit
suffit
pas.
pas.
Tu as
Il faut
besoin
vraiment
d'apprendre.
aller dans la rue, quoi, dans la street.
Tu as besoin d'apprendre dans la rue. Donc,
C'est pareil, c'est pareil. Bon, je conseille toujours les gens. Tu vas là-bas, fais-toi des amis, garçons ou femmes, sors de la classe, essaie de parler, bégaye. C'est pas ta langue maternelle. Donc, fais les fautes. Fais
C'est la
autant de
faute.
fautes que tu peux. Et en plus, quand tu fais des fautes, tu deviens fort. Moi, j'ai fait 3 mois, 6 mois de cours du japonais. On dit c'est 6 mois, mais en fait, c'est 4 mois de cours. Mais tous les amis internationaux qui sont arrivés, s'ils n'arrivent pas à parler le japonais comme je parle. Parce que moi, quand on a fini le cours, moi, je fais dans la rue, tu vois. Je prends une bière, tu t'assois dans un bar, tu mens, tu parles, tu fais tes erreurs. C'est pas ma langue, même la du coup, je comprends pas. Donc, si je viens mentir en japonais, voilà le problème.
C'est ça, c'est ça.
Et après, tu deviens fort, quoi.
Et aussi, ce qui est intéressant avec ces gens-là, bon, je vais parler du cas des Américains, c'est-à-dire même si quand tu te trompes, ils ne vont pas se moquer de toi, en fait. Mais
Exactement.
par contre, nous, en fait, c'est le problème qu'on a en tant que francophone. Le français, quand tu te trompes, les gens vont se moquer de toi. Mais les Américains, ils savent que, Amine, c'est-à-dire, dès que tu commences à ouvrir la bouche, que tu commences à parler, ils savent qu'avec ton accent, tu n'es pas d'ici. Donc, un, ils savent que ce n'est pas ta langue. Donc, après, tout ce qui vient après, ils s'en foutent. Si tu fais des euros ou pas, ils vont juste essayer de comprendre l'idée générale et puis essayer de t'aider, c'est tout.
C'est
Maintenant, toi
exactement
aussi,
ça.
voilà, à force de les côtoyer, à force d'écouter, parce que l'apprentissage, c'est ça, écouter, répéter, écouter, répéter.
Exactement.
C'est
Exactement.
vraiment intéressant, quoi.
Parce que
Donc,
l'Indri en partage vraiment beaucoup de choses en commun. C'est comme ça, c'est comme ça.
bien sûr.
C'est exactement ça. Tu écoutes, tu répètes.
Bien sûr. Mais en fait, aller au Japon, tu as dit que tu as appris le japonais. Bon, franchement, chapeau. Parce que, en fait, l'anglais, le français, c'est pas trop
Similaire.
différent. C'est
La même
pratiquement
base.
même chose. Mais le japonais, j'ai l'impression que ce sont des symboles. Donc, comment s'est fait cet apprentissage? Je sais pas si tu peux nous éclairer un peu là-dessus. Parce que, franchement.
Si quand tu arrives au Japon que tu poses cette question-là aux aînés, on les appelle les senpai, chacun va te donner sa technique, chacun a sa manière d'apprendre le japonais. Donc aujourd'hui, moi je vous partage ma manière, j'ai utilisé ou même pratiqué la même chose que je fais avec l'anglais. D'abord, je ne peux pas écrire avec la main tous les caractères japonais. Donc, je me suis focalisé sur le parler. Je me suis dit qu'à aucun moment dans la rue, quelqu'un allait m'approcher et puis m'a dit, écris ça. Il va m'approcher, il va ouvrir sa bouche pour me parler. Il faut que je comprenne ce qu'il me dise et que moi aussi je puisse lui répondre. Après, dans un bureau, je sais pas écrire. Ils vont l'écrire pour moi. Mais si j'arrive pas à comprendre ce qu'on me dit, c'est, j'ai pas ma place ici. Donc, moi, j'étais vraiment au tac, le pro. Depuis la tâche, je suis turbulent. Donc, le procès pose un truc, je réponds. Nani, je dis un truc qu'il a dit la veille. Je dis un truc qui. Je me promenais. Quand je marche, je mets la radio. Dans le temps, j'avais mon iPhone, je mettais la radio. Et puis, je marchais avec. Je faisais du vélo avec. Je m'en foutais de ce qu'on disait à la radio. Je veux juste habituer mes oreilles à entendre les mots. Et c'est une technique aussi qu'on apprend beaucoup quand tu apprends l'anglais. Tu écoutes la radio, tu ne t'intéresse pas à ce qu'on dit, il faut que ton système, quelque part dans ta tête, là-bas, ton cerveau, c'est probable que tu puisses comprendre n'importe quelle langue. Donc, il faut que ça entre déjà. Et puis après, les mots commencent à venir, tu peux les répéter, tu peux, comment on dit ça, tu peux essayer de répéter, comme tu as dit. Moi, quand je regardais un film en anglais, par exemple, je me pose et je répète ce que l'acteur a dit. Et la première fois que j'ai compris le discours du président Barack Obama, j'étais au Ghana encore. C'était comme une joie pour moi, tu vois. De comprendre ce que le président américain Barack Obama dit en anglais sans avoir besoin. Parce que chaque fois que tu parles, tu m'imposes, tu écoutes, tu répètes. Donc c'est écouter, répéter, puis ne pas avoir peur de faire les erreurs. Après, le japonais, les écritures, comme j'ai dit, il y a trois caractères, trois systèmes d'écriture. Donc il y a les mots qui connaissaient. Mais qui connaissent avant l'arrivée des Européens. Et puis il y a les mots qui sont nouveaux. Par exemple, la tablette, ce n'est pas un ancien mot. Donc il y a un système d'écriture pour écrire ce genre de mots-là, qu'on appelle le katakana. Et tu dis peut-être, je ne sais pas moi, New York. New York, ce n'est pas un mot français et pardon, japonais. Donc ils ont le même système d'écriture pour écrire tout ce qui vient de l'étranger. Et puis il y a le système d'écriture pour les mots qu'ils connaissaient avant. Par exemple, si tu leur demandais un œuf, l'œuf, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, on dit tamago et tamago, il y a une manière d'écrire tamago. C'est les symboles. Et dans l'apprentissage, ces symboles, ça ressemble à des traits, mais en fait, ça vient des images un peu chez nous, un peu l'écriture égyptienne, les gens font hiéroglyphes et tout et tout. Donc, c'est au cours du temps que ça devenait des symboles comme ça. Par exemple, au Japon, pour dire reposer, on dit yasumi. Et quand tu regardes le kanji du Yasumi, en fait, c'est un homme qui est sous un arbre. Il se repose à l'ombre de l'arbre. Donc, au lieu de dessiner toutes les feuilles de l'arbre, on te fait un caractère comme on a l'habitude de faire, un rond avec le pied de la personne, genre ce que les enfants font. Mais avec le temps, le rond a disparu. Et tu vois qu'effectivement, c'est un trait comme un arbre. Et puis, quelqu'un qui est dessus de l'arbre. Donc, ça fait Yasumi, ça fait Ripo. Chaque fois que tu vois ça, même si tu ne sais pas lire, pour savoir qu'on parle d'un truc qui a une connotation avec le repos. Voilà, ça peut être se reposer, ça peut être aller à la plage pour s'amuser, pour déstresser. C'est toujours dans le concept de repos. Donc, c'est un peu comme ça.
Wow.
Voilà.
Wow. Apparemment, ce sont les anciens des émoticônes.
Voilà.
Bref. C'est très intéressant, en tout cas. Tu donnes envie d'aller découvrir les caractères. Et
Voilà.
aussi, je suppose que c'est une société qui est totalement différente de la nôtre. La question que je voudrais te poser, c'est, durant tout ce parcours, je veux dire, depuis le temps où tu as commencé à chercher les bourses, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud, jusqu'à ce que tu arrives au Japon, et jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui un an après ton diplôme de doctorat, est-ce que tu pourrais nous partager une difficulté majeure que tu as rencontrée et aussi un succès majeur que tu as pu réaliser?
Oh, c'est une longue question. Hein. Depuis à la recherche de la bourse. Donc, on va commencer à la recherche de la bourse pour parler de la difficulté.
Tu peux choisir, en fait, pendant tout ce tronçon-là, quelle est la difficulté qui te revient le plus à l'esprit? C'est-à-dire ce moment qui était difficile pour toi à surmonter. Et puis toujours sur la même période, est-ce que tu as un souvenir d'un moment de grande joie, de grand succès, un challenge que tu aurais relevé? Vraiment sur toute la période, pas forcément à chaque étape, quoi, mais sur toute l'étendue de la période.
La grande difficulté, c'était, bon, une des grandes difficultés, c'était au niveau de la préparation pour la bourse. C'était une difficulté, mais en même temps, le fait d'avoir relevé, de m'être préparé moi-même, c'est devenu une force plus tard, quelques années plus tard. Comme Landry l'a posé, quand je commençais à préparer la bourse, j'avais personne. J'avais entendu qu'il y avait une bourse au Japon, et je suis allé à l'ambassade, j'ai appelé, pardon, on m'a dit que la bourse vient d'être fermée, et mais que les informations ne sont pas encore effacer du site que je peux les avoir. Donc, un bon petit qui aime l'ordinateur, je suis allé, j'ai téléchargé tous les formulaires. J'ai mon niveau d'anglais de l'époque qui ne me permettait pas vraiment de pouvoir remplir ces formulaires-là. Et j'ai réalisé que même si je cesse 3 fois, ça n'allait pas passer. Et j'avais personne sur qui me renseigner. Donc, il fallait tout le faire moi-même. Et donc, j'ai pris ces formulaires-là de la bourse qui est passée. Et je me suis dit que c'est pas bien grave, c'est passé, mais je peux commencer à me préparer. Donc j'ai rempli ces formulaires-là. Je les ai remplis, j'ai imprimé, rempli, effacé, rempli plusieurs fois. C'était une grande difficulté pour me convaincre moi-même du contenu de ce que j'étais en train d'écrire. Et ça devient un grand succès, ce truc-là, parce que quand la bourse est lancée, chaque année, l'ambassade du Japon dans le pays organise une séance d'information. Donc c'est une séance de kick-off où vous leur dites qu'on a commencé à partir de la semaine prochaine, par exemple, on va recevoir les dossiers. Et moi, j'ai eu tellement de difficultés, ça m'a pris 2 ans, en fait, si vous voulez, parce que quand j'ai appris, c'était passé, l'année qui a suivi, il y a eu la crise, l'ambassade n'était pas ouverte. Donc, j'attendais tout ce temps-là. Et quand ils sont venus annoncer juste à la séance d'information, moi, je suis déjà arrivé avec mes dossiers tout au complet. J'avais
Wow.
mal compris, en fait. Je pensais que c'était là qu'on venait déposer les dossiers. Donc
OK.
j'avais tous les dossiers déjà remplis parce que j'avais ça pendant 2 ans. C'était tout des on a fait, tu vois. Donc c'était une difficulté de pouvoir remplir, d'être sûr que je venais passer. Et quand tu viens, c'est public. Et Landry, il peut le confirmer pour ceux qui sont à l'INPHB, ils ont l'information que la bourse est lancée. Et avant moi, tous les boursiers qui arrivaient au Japon sont des produits de l'INP. Moi, j'ai pas fait l'INP. Donc, c'est déjà un stress. Est-ce que je peux rivaliser avec ces gens-là? Parce que c'est les têtes de l'INP que l'ambassade veut prendre. Tu vois. Donc, il fallait que j'arrive déjà à rivaliser avec tous les 2000 candidats qui arrivent de l'INP, plus ceux qui sont à Abidjan, qui ont fait un master, qui ont un peu confiance en eux. Du coup, c'était la grande difficulté ici. Et ça a été un avantage pour moi parce que quand ils ont fini de présenter, c'est le succès, si tu veux, dans cette partie-là. À la même période, on arrive à la séance d'information et le mec de l'ambassade qui présente ce truc, il demande est-ce que vous avez des questions? Et moi, j'avais déjà tout rempli en bic d'abord. Et les gens qui sont assis là, c'est des candidats qui sont intéressés, mais personne n'avait des questions. Et ça, c'est le deuxième point. Souvent, je défends ça sur LinkedIn. Il faut être actif. Faites-vous remarquer parce qu'en bien ou en mal, on va parler de vous. Donc, C'est mieux qu'on parle de vous en bien. Voilà. Donc, le mec demande est-ce qu'il y a des questions. On a environ 200 personnes. Personne ne pose des questions. Donc, moi, déjà, c'est... avant même de partir déposer mes dossiers, j'ai posé des questions auxquelles j'avais déjà répondu. J'étais déjà sûr que mes réponses étaient bonnes à cause du doyen, du docteur qui a étudié au Japon, qui m'a aidé. Mais il fallait que je me fasse remarquer. Il fallait que je fasse. Donc, j'ai enchaîné 4 séries de questions auxquelles j'avais déjà répondu. Donc, déjà, il y a un mec parmi les 200 qui est un peu agité, qui a les questions. Et puis, c'était les questions difficiles, en fait, parce que je savais que les questions faciles, je les connaissais, j'avais déjà répondu. Donc, cette difficulté dans la préparation s'est avérée être un avantage parce que quand je suis allé déposer, le même monsieur qui faisait la présentation, il m'a reconnu. Ah, c'était toi qui étais à la séance d'orientation, là. J'ai dit oui, monsieur.
Ah, okay.
Donc, c'est pour moi, c'est ce moment-là qui a été la difficulté de tout apprêter tout seul, mais ça m'a permis d'être différent des autres postulants.
Voilà. Effectivement. Franchement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler, de t'écouter avec tout ce parcours et tous ces challenges que tu as pu relever avec brio. Donc maintenant, j'aimerais savoir quel conseil tu peux donner conseil orientation. Je sais que tu as déjà ton blog, Aide au Japon, mais quel conseil tu aimerais donner aux orientations que tu aimerais donner à la jeunesse qui aimerait faire comme toi ou bien qui aimerait aussi aller étudier à l'extérieur, si tu as des conseils à leur donner.
D'accord. Premier conseil, ce sera déjà l'apprentissage de la langue anglaise ou bien d'apprendre l'anglais parce que ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Moi, si ce n'était pas à cause de mon niveau d'anglais, je ne pense pas que je sois le plus fort en informatique, mais l'anglais m'a permis d'entrer dans les endroits, de faire des choses, de découvrir des personnes, de rencontrer des gens que je n'allais jamais pouvoir le faire si je n'avais pas cette aisance en anglais. Et je n'ai pas commencé directement avec l'aisance en anglais. Tu apprends, tu bégayes, tu fais des trucs, mais comme on a dit, ce n'est pas ta langue maternelle. Tu t'en fous à la limite, tu apprends pour devenir fort dans un an. Donc, c'est de vraiment t'intéresser. Un exemple pour ce conseil-là, quand je rentre à la fonction publique, on m'affecte au ministère de l'agriculture. Et un matin, je vais au boulot et je rencontre une dame dans le parking qui est en fait la responsable numéro 2 du conseil café cacao en Côte d'Ivoire. Si vous êtes ivoirien, que vous connaissez le conseil du café cacao, c'est une entité dans le ministère. C'est différent en fait. Le conseil du café cacao et le ministère de l'agriculture, c'est deux trucs qui sont différents. Donc moi j'arrive, je croise la numéro 2 du conseil café cacao qui revenait d'une formation en Afrique du Sud. Et moi j'aide la maman, je prends son sac avec elle ou son capot pour prendre ses affaires. Et j'ai vu dans son petit sac qui était entrouvert le livre Je me débrouille en anglais. Et donc quand j'ai vu ce livre, moi j'ai attaqué en anglais parce que moi j'étais très confiant de mon anglais de gagner. Donc j'attaque en anglais. J'ai dit, Mom, do you speak English? Do you learn English? Donc, juste cette phrase-là. Oh, Mom, you learn English, you speak English. Elle était, oh, mon fils, tu vois, elle était vraiment contente. Mon fils, tu parles anglais. Hey, tu m'as sauvé la vie. Non, il y a un Dieu pour les pauvres. Mon fils, pardon, je viens de l'Afrique du Sud. Depuis là, il nous parle en anglais. J'arrive pas à comprendre. Alors que je dois faire ça, pardon, viens m'enseigner à la maison. Tu travailles où? Tu es où? Donc, moi, je suis à la DSI, c'est le département de l'informatique en bas, au rez-de-chaussée avec tous les serveurs et tout. Elle est au 22e étage, c'est la numéro 2 du conseil Café Cacao que j'ai rencontré, que j'ai côtoyé, je suis allé à la maison de cette dame-là. Donc, mon avenir même au ministère de l'Agriculture commençait déjà à se terminer parce qu'elle allait m'enlever là-bas très, très vite.
Fossé.
Et j'ai eu ma... tu vois, donc ça, c'est le premier avantage de pouvoir se débrouiller en anglais, de pouvoir s'exprimer en anglais. Aujourd'hui, Landry est aux États-Unis, il peut confirmer, tu vas partout avec ce truc-là. Donc, premier conseil pour tous ces jeunes, ces personnes, vous n'avez pas besoin de devenir fort en anglais comme Landry qui est aux États-Unis. Il faut avoir la bonne base. Sujet, verbe, complément, yes, I know, I don't know. C'est tranquille. Yeah. Et puis, voilà, il faut, ça c'est le premier conseil. Et puis le deuxième conseil, je suis là-dessus aussi, c'est d'aller à l'information. Voilà, le Seigneur ne va pas envoyer un pigeon avec un sac dans sa bouche d'informations pour vous. Donc, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Tu veux un truc, tu commences par l'étape zéro. L'étape zéro, pour avoir la chose, c'est l'information. Moi, par exemple, c'était un de mes rêves d'enfant de travailler pour l'ONU en Côte d'Ivoire. Parce qu'on m'a dit que les travailleurs de l'ONU sont bien payés. Et si je suis payé en dollars en Côte d'Ivoire, J'ai même pas le problème avec quelqu'un. Si on dit on change le premier ministre, mais on change le président, je les gère pas. Je suis au pays, mais je suis payé par l'extérieur. Donc c'était toujours mon rêve de pouvoir travailler pour l'ONU, qu'on me paye en dollars. Donc j'ai pris toutes mes informations. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je veux travailler à l'ONU, je sais qu'est-ce que je dois faire. Je rêve plus de ça, mais j'avais déjà toutes les informations. Ok, je fais ça, j'essaie d'entrer dans un truc de volontariat. Souvent, on fait ils ont des opportunités où tu peux aider un bureau parce que l'ONU, c'est plusieurs agencies, plusieurs agences. Donc, l'essentiel, c'est de trouver une agence, tu fais un truc, même si c'est des vaccinations, même si c'est un recensement. Et puis, étape par étape, tu rentres. Quand tu rentres, on te dit qu'on ne va pas t'aider, mais quand tu es dedans, on t'aide. Donc, il y avait déjà ces informations. Il faut aller aux informations. Si tu veux travailler, je sais pas moi, à la RTI, tu t'arrêtes pas pour regarder Tempo, quoi. Tu vois, tu informes sur les différentes étapes. Tempo, ils ne vont jamais t'informer à Tempo sur comment on fait pour aller à la RTI. Donc, c'est comme ça. C'est
C'est
les deux
ça.
conseils que je donne aux gens. Il faut aller à l'information et puis aller tôt. Voilà.
Ah, ok,
Donc.
en tout cas, merci. Merci pour tes conseils. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre podcast. Donc, Elder, je vais te demander de donner ton mot de fin pour nos auditeurs.
Pour les auditeurs, on dit ça en japonais. Maintenant, c'est en
Ok.
gambate kudasai, ne? Donc, jin se ga muzukashi kedo, gabaranai wa ikenai, ne? Ok.
Wow.
On dit ça en français maintenant. Donc, le mot de fin, c'était juste d'encourager les gens à bosser. Moi, j'aime pas dire étudier parce que quand tu dis étudier, tout le monde n'a pas cette envie d'étudier, cette haine, tu vois, devant un livre, devant les ordinateurs. Mais bosser, c'est un mot qui en gros englobe un peu tout. Donc, je vous encourage à bosser. Si vous aimez la plomberie, soyez le meilleur plombier du quartier, quoi. Avec un peu d'anglais, vous serez peut-être plombier, je sais pas moi, la BAD. Et puis après, vous allez ouvrir votre atelier de plomberie. Donc, bossez, faites ce que vous aimez, faites ça bien. Et puis, mettez un peu d'anglais dedans. Si vous aimez, vous voulez faire un restaurant, faites votre restaurant. Soyez la responsable du restaurant qui peut parler aux clients qui arrivent du Brésil en anglais. Et votre restaurant sera demain côté cité dans les grands livres des restaurateurs. Donc faites ce que vous avez, faites ça bien et puis mettez un peu d'anglais là-dedans, c'est tout. C'est le message que je veux donner, mon dernier mot de la fin, quoi.
Super message. L'anglais, c'est
Super.
la clé. L'anglais,
Ouais.
c'est la clé. C'est la clé. Ok, merci Elder pour ton temps. Chers auditeurs, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Nous avons passé un super temps avec Elder qui nous a gratifié de conseils avisés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi intéressant que celui-ci. À bientôt. Bye.
Merci beaucoup.
Merci à tous.